le fait de l'humanité. Parce qu'il est anormal qu'une planète riche de tout, je dis souvent aux gens, prenez un seul grain de blé, mettez-le sur votre paume et méditez dessus. Voilà l'esprit. Dans ce grain, il y a de quoi nourrir l'humanité tout entière. Donc la puissance de la vie est absolument gigantesque. Parce que si vous connaissez un peu l'agriculture, un grain de blé, vous le semez, il vous donne, le plus mauvais paysan comme moi pourrait obtenir au moins 5-6 épis. Chaque épi contenant 40 graines. Si je ressème mettons 10 épis, 40 graines, multiplié par 5, ça fait un certain nombre, comme dit. Et puis, donc, la nature est prodigue. Elle est extraordinairement prodigue. Même quelquefois, on se pose la question sur le gaspillage, finalement. Pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs spermatozoïdes pour qu'un seul soit au père? Pourquoi, etc. On se dit, mais quel gaspillage? Mais non, il n'y a pas de gaspillage. C'est-à-dire que tout ce qui est en excédent est remis dans la vie. Et la vie fait quoi? De l'économie. C'est ça la vraie économie. Et nous, ce que nous appelons économie, ça n'a rien à voir avec l'économie. Nous faisons de la dissipation, du gaspillage et de la destruction, et on met de l'étiquette économie. Donc voilà, il y a toute une réflexion à faire sur les constats sont faits, les diagnostics sont faits, qu'ils partent par un beau texte comme celui de Giono ou par des constats qui sont plus pragmatiques. Les constats sont faits, mais on fait quoi?
Alors on fait quoi?
Vous proposez à travers tout un certain nombre d'associations que vous avez créées, oui, des solutions concrètes. Donc justement, comme vous le dites, vous faites, oui, partie de ces gens, et c'est ça qui nous donnait envie de vous rencontrer, notamment chez vous, c'est que vous faites partie de ces gens qui mettaient en œuvre vos idées, oui, depuis longtemps. Et donc, ce serait peut-être l'occasion de nous donner quelques exemples concrets, oui, de choses que vous faites. Oui. On est passé tout à l'heure devant un village qui s'appelle le village du Buy. On voit qu'il se passe quelque chose là. Oui. Voilà, oui, on voit qu'il se passe quelque chose. Bah, racontez-nous des exemples concrets de choses que vous faites pour essayer de changer un peu les mentalités, de vivre autrement.
Alors, d'abord, la première proposition ou incarnation, ça a été notre propre ferme. Nous avons quitté Paris, on n'avait pas le moindre sou, on a acheté un lieu que j'ai décrit précédemment. Sur ce lieu, on a installé une activité dite économique. Cette activité économique consistait à avoir des chèvres, faire du fromage et à améliorer. Et puis en même temps, dans la réhabilitation et l'amélioration du sol et de l'environnement, de façon à donner vitalité. 5 enfants sont venus, n'ont manqué de rien, sur un lieu qui était considéré comme non viable. Donc ça a été la première expérience. Ensuite, ça a été de dire, mais finalement, il y a la faim dans le monde. Il y a des problèmes dans le monde. Et la première fois, j'ai été sollicité par une association qui s'appelait le CRIAD, Centre de Relations Internationales entre Paysans pour le Développement. Et je me suis trouvé en 1981 au Burkina Faso, pour la première fois, pour examiner la situation du lieu. On m'avait invité à cela, et je constate quoi? Que la misère s'installe, que la sécheresse avait détruit les sols, et que les paysans étaient dans la détresse la plus totale. Donc, il s'est trouvé que l'approche agronomique qu'on avait expérimentée, sans engrais, sans pesticides, etc., convenait parfaitement à ces paysans. Donc, ça a été l'enseignement de l'agroécologie des paysans. Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, ça ne vous coûte rien. Vous prenez des déchets, vous les transformez, vous les compostez, ça vous fait le meilleur engrais que vous puissiez obtenir. Résultat, ça marche. Pendant ce temps-là, moi j'ai écrit un bouquin sur l'expérience africaine. Bouquin qui s'appelle « L'offrande au crépuscule », avec un immense hommage aux femmes, parce que j'ai constaté quand même que sans les femmes, tout serait par terre. Voilà. Et j'ai constaté cette vitalité des femmes qui sont dans les coulisses, et qui sont jamais dans les trucs politiques, jamais, mais elles sont dans les coulisses. Et leur dévouement, leur amour, leur opiniâtreté, etc., c'est-à-dire les gardiennes de la vie, elles étaient là. Et donc ce bouquin où j'explique l'approche sociale, l'approche technique, l'approche scientifique de l'agroécologie, est envoyé au ministère de l'Agriculture qui lui donne un prix. J'étais le premier prix. Je suis premier surpris parce que je me suis dit, jamais ils n'accepteront une thèse comme celle-là. Et ensuite, prolifération d'autres structures, création de Terre Humanisme qui aujourd'hui enseigne au plan international l'agroécologie. Vous avez ma fille qui a pris un concept que j'avais proposé qui s'appelle les oasis en tout lieu. Eh ben, vous pouvez passer au hameau des Buis, c'est pas loin d'ici. Il y a une vingtaine d'habitats, il y a une école primaire, il y a un collège, etc. Ça a été le concept oasis en tout lieu. Dire que dans la désertification actuelle de la société, qu'est-ce qu'on va faire? Le jour où les gens n'auront plus de travail, ils font quoi? Voilà. Donc recréons des lieux qui resocialisent un peu, qui recréent le lien social, la solidarité entre les gens, etc. Mais pas des lieux refuges, c'est-à-dire fermés, des lieux au contraire ouverts. Donc voilà, toutes ces.
Et
récemment, Colibri. Les Colibris, c'était destiné justement à recréer le lien et la cohésion entre toutes ces organisations et de porter cette vision que nous avons, nous, d'une nécessité, pas seulement d'avoir des alternatives compensatoires ou des alternatives qui vont corriger simplement momentanément les choses, mais nous sommes pour trois critères absolument indispensables. Premièrement, changement de paradigme. Sortir de ce paradigme de l'argent, de mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations plutôt que le profit et tout ce qui en découle. Ça, c'est le premier élément. Parce que sinon, ce paradigme-là produit de la détresse et on s'acharne sur des symptômes produits par un système lequel n'est pas remis en question, même politiquement, et qui devrait l'être. Deuxièmement, croire que la société peut changer sans le changement de l'humain, je n'y crois pas. Je ne veux pas me faire ce type d'illusion. Je dis souvent aux gens, vous pouvez manger bio, recycler votre eau et exploiter votre prochain. Ce n'est pas incompatible. Et de même, on peut s'indigner, mais retourner et ficher une rouste à sa femme. Ou, je veux dire, chez les opprimés, il y a aussi des oppresseurs en puissance. Donc le changement de l'humain est absolument indispensable. Et qui dit changement de l'humain, ça m'interpelle personnellement. Parce que je restais constamment dans le bouc émissaire, ça ne va pas parce que les autres, non. Et aussi la réhabilitation, moi je le dis ouvertement, j'ai évité d'en parler pendant des années, parce que dès que vous parlez spiritualité, c'est qu'on fait partie d'une secte ou je ne sais pas quoi, ce qui est complètement ridicule. On peut pas, moi, je pense que la réhabilitation du sacré est indispensable, parce que par cette réhabilitation, ça nous donne une dimension transcendante. Et ça nous donne une perception de cette réalité vivante qui prend toute sa noblesse et toute sa grandeur. Et ça donne à l'être humain cette grandeur, il rejoint véritablement son rôle d'être humain, de s'émerveiller, s'émerveiller, donc de nourrir son cœur, son esprit, de quelque chose qui va lui donner une sorte de jubilation intérieure, même si elle est tranquille, si vous voulez. Et en même temps, il me paraît pas incompatible d'avoir un rapport et une conception sacrée de la vie et en même temps de la saccager. C'est une incompatibilité. C'est parce que nous avons abandonné cette vision sacrée que finalement, on a validé, entériné, qu'on a été, et même les religions n'ont pas été à la hauteur pour dire, pour justement limiter en quelque sorte ces dérives. Voilà, et l'esthétique, la beauté, bien sûr. Tout cela est beauté, vous voyez, tout cela est beauté dans un monde où finalement la laideur n'arrête pas de croître et où les âmes sont finalement polluées. Je ne rentre pas dans un moralisme strict, etc. Mais voilà, la situation n'est quand même pas très brillante.
Justement, vous venez de dire la situation n'est pas très brillante et je voulais vous demander, après 50 ans maintenant de cette vie que vous avez menée ici et de toutes ces actions que vous avez faites, est-ce que vous avez encore espoir? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que cette utopie, elle est quand même à l'horizon? Vous pensez que l'homme changera? Parce que ça semble tellement impossible, tellement difficile, tellement incroyable, que je voulais savoir où vous en êtes de votre espérance, en fait, pour l'humanité.
Vous savez, il y a un moment où vous tombez dans une espèce de réalisme, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous vous dites, moi, je fais le possible et Dieu fera l'impossible, parce que c'est tellement hors de la mesure d'un être humain. Alors, on a la tentation de dire, bon, pff, le bateau coule, j'y peux rien. De toute façon, là, je ne l'empêcherai pas de couler. Il y a cette tentation quand on... Quand j'ai, mon foie n'est mal régulé, un beau matin comme ça, ou je ne sais pas quoi, ou bon, on a une vision un peu noire, pessimiste des choses. Et puis le lendemain, le soleil brille, on est en pleine jubilation, etc. Bon, bah, ça, c'est l'être humain dans ses limites. Et on mesure ses limites. Après, se pose la question, mais c'est hors de proportion de ce que je peux, moi, faire. Et ensuite, est-ce que l'humanité va s'en sortir ou va pas s'en sortir? Moi, je n'ai pas de réponse, véritablement. Ça tient à sa vision. Si elle devient intelligente, j'entends par intelligence, c'est pas sortir premier des grandes écoles, là, ça n'a rien à voir. J'entends par l'intelligence, c'est-à-dire cette lumière qui nous vient, qui nous éclaire et auquel on s'ouvre. C'est pas une question de cerveau. Le cerveau n'est que le réceptacle de quelque chose qui transcende, et c'est ça ce que j'appelle le spirituel. Et quand je vois l'organisation de la vie, l'intelligence qui est dans l'ordre de la vie, cette intelligence absolument époustouflante, et il suffit d'ouvrir son cœur et son esprit à cette intelligence, et on est intelligent, parce qu'on est éclairé. Vous comprenez? Autrement, on reste dans notre rationalité stupide qui, soi-disant, est une rationalité qui va éradiquer la superstition. Mais il n'y a pas de pire superstition que la rationalité quand elle est aveugle. Il n'y a pas pire parce qu'on est installé dans une certitude absolue. Alors, par rapport au devenir du monde, on se pose des questions, on se gratte un peu la tête, on se dit, bon, je ne sais pas quel sera l'avenir, je suis ni pessimiste, ni optimiste, mais moi, je fais ma part. C'est la raison pour laquelle on avait créé le colibri. Colibri, vous connaissez la légende, le feu, il y a un incendie, les animaux sont atterrés. Par contre, le petit colibri, lui, il va prendre une goutte d'eau et la jeter sur le feu. Ça paraît complètement dérisoire. Le tatou le regarde, lui dit, mais c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Il dit, je le sais, mais je fais ma part. Donc, faire sa part... Ça veut dire qu'à partir du moment où on a un éclairage de cette intelligence et qu'on a, on a cette conscience constructive, et bien ensuite, ce qui nous tient, moi en tout cas ce qui me tient, je ne me pose plus de questions sur le futur. C'est-à-dire soit l'humanité continue à transgresser et elle s'éradiquera elle-même, soit elle est éclairée par la vraie intelligence. Et c'est là où la spiritualité est très importante pour l'éclairage. Et pas cette spiritualité partisane qu'on travaille sur les virgules, les machins. C'est du fatras, tout ça. Il faut maintenant simplement, c'est direct. Moi, pour moi, le Christ a dit aimer, la puissance de l'amour suffit largement. Et c'est la puissance la plus importante. Ensuite, vous vous dites, bon, moi, je suis témoin. Je suis doté de cette vie. Je suis plein de gratitude pour cette vie. Qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, je vais construire. Et je vais, en construisant, j'y trouve mon compte, parce que je trouve ma cohérence. Et ça, ma cohérence, bien sûr, on pourrait faire une bibliothèque entière sur mes incohérences et tout ce qui est incohérent. Mais il y a un point fondamental sur lequel je ne veux pas être incohérent. Moi, je dois rester cohérent. Et c'est cette cohérence-là qui fait que on continue en dépit de tout ce qui, de tous les signaux et de tous les signes et de l'état du monde qui n'est qu'à, dès qu'on ouvre la radio, ça y est, c'est le désastre généralisé. C'est dommage que dans la radio, il n'y ait pas quand même quelques bonnes nouvelles.
Eh ben, vous voyez, la radio, c'est aussi les racines du ciel. Et les racines du ciel, ce sont des bonnes nouvelles de rencontrer des gens comme vous. Qui êtes les témoins de ce que vous dites, de ce que vous annoncez, hein. Vous vous incarnez vraiment dans votre vie. C'est pour ça qu'on était très heureux d'être venus vous voir ici. Et j'adhère tout à fait à ce que vous avez dit sur la spiritualité. Ça, je crois profondément aujourd'hui, il faut sortir d'une vision de la spiritualité comme une religion où on va pratiquer des choses extérieures, des actes, des rituels dont on ne comprend pas toujours le sens. La spiritualité, c'est se transformer soi-même au jour le jour. C'est avoir un respect de la vie, un respect de l'autre, être dans le lien, dans la communion, et dans la joie. Donc voilà, vous nous avez donné aujourd'hui une leçon de spiritualité. Je vous en remercie beaucoup, ainsi que Lélian Var, de nous avoir accueillis dans ce bel endroit.
Merci infiniment.
Cette émission touche à sa fin. Bref agenda culturel, Lélian Vard.
Alors, je voudrais citer le dernier ouvrage paru de Pierre Rabhi chez Actes Sud, Vers la sobriété heureuse. Pierre Rabhi a publié de nombreux ouvrages dont on trouvera les références sur notre site. Mais je cite celui-là parce qu'évidemment, il résume, il développe ce que Pierre Rabhi nous a dit au cours de cette émission. Et puis aussi, et surtout parce qu'à la fin de ce livre, qui est presque un livre testament, il y a la Charte internationale pour la Terre et l'humanisme, donc le texte de cette charte, mais aussi tout un chapitre sur les différentes structures qui ont été inspirées ou directement fondées par Pierre Rabhi, les associations, les fondations, enfin toutes les activités nombreuses et variées qui se fondent sur la pensée de Pierre Rabhi pour faire avancer les choses tout à fait concrètement. Donc il y a les sites internet des associations.
Voilà, tous les renseignements pratiques. Absolument. Si on veut s'investir dans une de ces associations.
Absolument, et pour aider et pour effectivement contribuer à cette construction qui finalement est une construction universelle. Et donc il y a cet ouvrage, Vers la sobriété heureuse, chez Actes Sud. Et la deuxième chose que je voudrais signaler, c'est votre dernier ouvrage, Frédéric, qui s'intitule L'âme du monde et qui va dans le sens de tout ce que l'on vient de dire. C'est publié chez Nil et c'est en fait, je qualifierais cela d'un conte spirituel dans lequel sept sages se retrouvent dans un monastère du Tibet, venus des quatre coins du monde, inspirés par une voix qui les a amenés jusque-là. Et ils vont transmettre un enseignement de sagesse à un jeune moine et à une jeune Hollandaise aussi qui se retrouve là, donc Tenzin et Natina. Et chacun va présenter ce que sa tradition, sa culture a apporté, la pierre qu'il a apporté à l'édification d'une sagesse universelle. Et c'est un livre qui, sous la forme d'un conte, permet de rendre tout à fait accessible justement la quintessence des sagesses du monde qui se retrouve au Tibet, mais qui se retrouve surtout dans le cœur de chaque humain.
Merci Lydie. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Jean-Claude Carrière qui nous parlera des différentes religions qu'il a visitées en tant qu'athée convaincu et néanmoins tolérant. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.